Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Bonjour. Ah bah aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu spéciale, on va dire. Une émission où je vais vous lire des textes que j'ai écrits à différentes époques, enfin pas très lointaines quand même de ma vie, des textes qui m'avaient été dictés par l'actualité ou par certaines pensées ou des choses que j'avais vues comme ça dans la vie. Ben, à propos de la vie, on va commencer par une chanson très actuelle, une chanson de mon ami Bernard Pochet et dont le titre est « Philippique à Nicoléon Sarconaparte ».
Voici donc « Factum » ou « Philippique à Nicolas ». Vous êtes un anthrax, un furon. Une exhalaison d'ergastule, un remugle de ministère, une tumeur, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre le plaisir et l'orgasme, entre le fromage et la poire, entre l'entre-deux-mers, entre le coca et le pepsi, le blanc bonnet et le bonnet blanc, la guillotine et l'échafaud chauve échevelé et le mont chauve, vous êtes un anthrax, flegmon dantesque. Hérésipel héréditaire, un dictionnaire de bonne manière. Une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre un sel mi-gondi de rosette, mi-de lion, mi-de champollion. Entre le sportif et l'athlète, entre l'athlète et le PO, entre l'alcool et l'alambic, entre la chèvre et le chouchène, le chêne et le roseau, le zoo et l'eau des steppes, le stéthoscope et le micro, Horace et l'écuréas. Vous êtes un anthrax, un musicien à cryptogame, un goupillon étiphalique, un iceberg anti-titanique, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre le dentiste et la dent, entre Adam qui entra dans Ève, entre la lèvre et le palais, entre le poil et le pavot, entre le paquebot et le pied-bot, la botanique et le pavot, le veau sous la mer et le boucher, chez qui je vais faire mon marché. Vous êtes un anthrax, une pituite, un prurite, un foutre d'huître, une bourriche, une outre, un organigramme de la DAS, un vétéran de l'agence TAS. Pathogène, une dichotomie pathogène. Entre Mahomet et Jésus, entre Jésus et je sais plus, entre la pluie et le beau temps, le temps perdu et retrouvé, le trouver et le troubadour, le badinter et le pendu, le durillon et le corps au pied, le pied à terre et le rat de marée. Vous êtes un anthrax, un miasme, champignon mycochondriac, un anneau d'anus scrofuleux, pataquès de pastèque aztèque, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre Diderot et Camembert, entre Alembert et Livaro, entre Rudebeuf et l'entrecôte, entre un verre de côte de Millau et une fiole de la voisine, entre l'Argoussin et le Pandore, vous êtes un anthrax. De vache, une bouse humide, une barbouze, agent détergent, un futur ersatz d'androïde, moitié germe mi-embryon, un spermato-sarcosyïde, éjaculat de courtisan dans un utérus bien pensant, même pour le fruit du plaisir, et vous croyez être plaisant, monsieur le futur président. Vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax. Une jambe de boisson Talleyrand, un avorton avatar de Vidocq en toc, même pas une merde dans un bas de soie, tout juste une crotte dans un Kleenex. Vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax.
Et un premier texte, donc, dont le titre est « On sait ce qu'on a, on va savoir ce qu'on perd ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde et les temps changent. Ah, quand j'étais gamin, le facteur ne manquait jamais d'échanger quelques mots avec ma grand-mère quand il lui apportait son courrier. « Oh ben bonjour, Madame Roger! Ça va aujourd'hui ?»« Ah, bonjour, facteur! On fait aller, je vous offre à boire. »« Oh ben si vous voulez, mais alors vite fait alors, hein !» Il posait sa sacoche sur le pas de la porte et essuyait consciencieusement ses semelles sur le paillasson et il entrait. Après avoir trinqué et vidé le premier verre, il faisait part à la vieille dame des nouvelles qu'il avait recueillies au cours de sa tournée. La mort du vieux fermier du Bois du Four, le prochain mariage de la Jeannette, l'évolution de la maladie de Germaine. Oh, elle n'avait pas besoin d'acheter le journal, ma grand-mère. Chaque matin, ou presque, elle avait sa gazette. En direct live et à domicile. Il servait à bien des choses, le facteur. Oh, dites donc, facteur, ça vous ennuierait pas de dire à Madame Dupneu que je passerai la voir cet après-midi sur le coup de 3 heures ? J'ai quelque chose à lui dire. Ou alors, en passant demain, vous seriez gentil de m'apporter un tube d'aspirine, j'en ai plus. Ouais. Il rendait un tas de petits services de ce genre, le facteur. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, dans les campagnes, les voitures jaunes de la poste sillonnent les routes à toute vitesse et le préposé balance vite fait les factures dans votre boîte sans même descendre de son véhicule, tout juste s'il vous adresse un signe de la main pour vous saluer. Et en ville... C'est pas mieux, hein. Le facteur est en vélo, mais pas question de s'arrêter plus de 30 secondes devant votre porte. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit que le mieux, c'était de le demander au mien de facteur. Donc, pas plus tard qu'hier, je me suis posté sur le pas de ma porte à l'heure où il passe tous les jours. « Mais j'ai pas le temps !» il m'a répondu. « Mais si ça vous intéresse, on se voit après ma tournée. »« Ah, d'accord, j'ai dit. Et je vous paierai la mienne. » Et sur ce bon mot, nous avons pris congé. Dans le milieu de l'après-midi, il a frappé à ma porte. Oh, ça m'a fait tout drôle de le voir sans son uniforme. Et en plus, il avait le sourire. On s'est servi une bière et on a parlé... Oh ben des choses comme ça, c'est plus possible, qu'il m'a dit. Maintenant, il faut qu'on soit rentable. Mais je lui ai dit, la poste, c'est un service public, non ? Oh ! Oh ben plus pour très longtemps. Et il avait un drôle de sourire en disant ça. Puis il a enchaîné. Avant, quand on arrivait à la poste, on faisait son tri, on préparait chacun sa sacoche... On parlait entre collègues. Maintenant, le tri est fait, tu prends ta sacoche et tu pars. Et plus de question de t'arrêter chez les gens, hein, de prendre le temps de leur parler. Est-ce que vous savez combien de temps il nous est imparti pour délivrer une lettre commandée ? Ah, j'ai dit, mais parce qu'il y a un temps ? Ah bah oui, tout est calculé. Pour une lettre commandée, on a 1 minute et demie. C'est pour ça que vous retrouvez un avis de passage, même si vous êtes chez vous. Si vous répondez pas tout de suite à mon coup de sonnette, hein, je pose un avis. Pas le temps d'attendre. Oh, mais ça, c'est pas le pire. Hein. Quand un matin, il y a trop de courriers à distribuer, eh ben, il faut faire des choix. Eh ben, si je dois choisir entre une lettre et un courrier publicitaire, eh ben,
il paraît que je dois livrer celui-ci en premier. Si je fais le contraire, je me fais taper sur les doigts. Faut ménager les gros clients, paraît-il. Et ça va pas s'arranger, hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a 18 000 bureaux de poste. Et en 2009, il est prévu qu'il y en aura plus que 7 000. Bah, et vous protestez pas ? Oh, ah bah si vous croyez que c'est facile. Tous les services sont séparés. Le courrier d'un côté, les colis d'un autre, et puis les opérations de guichet à part. On se voit plus, on se rencontre même plus, on se parle plus. Allez donc organiser quelque chose dans ces conditions. Ah, et c'est pas tout, hein. Avant, on passait un concours pour être facteur. Maintenant, on embauche des contractuels, certains à 20 heures par mois, enfin par semaine, d'autres à 30, et sous-payés, bien sûr, tout ça. Alors du coup, nous, les titulaires, on se fait regarder d'un drôle d'œil. Bah forcément, hein, ils font le même boulot que nous, et ils sont payés bien moins cher. Alors, les contractuels, on peut même pas compter sur eux pour protester. Et puis, s'ils le font, hein, pour eux, c'est la porte, hein. Et les titulaires, il va y en avoir de moins en moins. Tiens, pour vous donner une idée. Ici, aujourd'hui, il y a 33 tournées qui sont faites par les titulaires. Dans 5 ans, il n'y en aura plus que 25. Mais je lui ai dit, les usagers, eux, ils pourraient protester, non ? Ah, les usagers. Ah, ils râlent quand on se met en grève et quand leur courrier arrive pas. Mais ça leur vient pas à l'idée que quand on proteste pour nos conditions de travail, c'est leur intérêt qu'on défend. Quand le courrier sera distribué par des sociétés privées, ils vont la voir, la différence. Est-ce que vous savez qu'en Suède, vous payez une surtaxe si vous habitez dans une zone excentrée ? Hein ? Eh ben, c'est ça qui nous pend au nez. Si vous habitez sur le Larzac, par exemple, vous allez payer votre courrier plus cher que si vous habitez en ville. Ah, aujourd'hui, avec le service public, c'est le même tarif pour tout le monde. Mais quand ça va être le privé... Tiens, on le voit déjà pour les colis internationaux. Avec la fermeture du centre de tri central de Marseille, c'est l'abandon par la direction de la Poste d'une offre d'échanges internationaux économiques qui permettait aux populations modestes de pouvoir expédier des colis à des prix abordables. Et considéré à l'échelle du globe, cette politique prive 80% de la population mondiale de l'accès au courrier. Les restructurations dans le domaine du courrier ont des effets directs sur les usagers. L'abandon des moyens de communication peu coûteux et l'envoi de courriers par voie maritime auront pour conséquence de multiplier les prix par 10. L'acheminement d'un colis postal de 10 kilos pour l'Algérie, par exemple, coûte maintenant 42 euros. Et bien, par chronopost, il en coûtera au minimum 394 euros. On s'est mis en grève pour ça. Et bien, quand on s'est mis en grève, les gens, ils ont râlé, hein.
Là, j'ai réfléchi une minute et puis je lui ai dit, c'est vrai, ils sont drôles, les gens. Ils disent que les fonctionnaires sont des fainéants, mais ils râlent quand ces mêmes fonctionnaires se mettent en grève parce que plus rien ne marche. Et pourtant, si les fonctionnaires ne faisaient rien, on verrait pas la différence. Et là, on s'est mis à rire tous les deux et on a fini notre bière. Et en partant, il m'a dit, oh, vous savez, moi, j'aimerais mieux faire mon métier comme le faisait le facteur de votre grand-mère. C'était bien plus agréable pour tout le monde.
Comme à l'école communale, utilisons des mots cochons. Utilisons des mots cochons pour brocarder tous les bouffons. Sans doute à cause de mon choix, que j'ai sensible au moindre émoi, à moins que ce soit ma vésicule bien encore mon trou du cul. Je sens une pulsion colérique me détruire les zygomatiques. J'ai envie de dire des mots salingues pour éviter de tomber dingue devant les discours infâmes de nos décideurs qui brament leur sermon moralisateur. Ayez confiance et n'ayez pas peur. Soyez solidaires, dynamiques. Ne fumez pas de hakik. Entreprenez, investissez. Soyez forts et déterminés. Et pour que l'État soit plus balèze, on vous piquera un peu plus de pèse. Nous pauvres cons, on baisse le front et ils organisent l'exclusion. Entouré de ses pauvres coteaux, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. L'univers entier nous envie le talent de nos dirigeants, dont le cerveau la rabougrie ne véhicule que du vent. L'idée de la pensée unique, c'est plus c'est nul, plus je te nique. C'est vous dire la force des concepts qui germent dans leur cerveau inepte. La République sans jeu de mots, ils la prennent pour une pute, lui font des papouilles, des turlutes, et se foutent de guérir ses maux. La trahison de leur promesse, ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe et ructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons. Entouré de ses porte-coton, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon. J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finie, faut récurer le fond de la marmite. Qui sait ce PQ sans façon qui salit les institutions? Qui sait ce malheureux baveux et ses rimes à pour poil nœud? Qui sait ce teigneux anarchique au mauvais goût catastrophique, donnant des armes aux extrémistes, aux factieux, aux pourris, aux fascistes? À vrai dire, j'en ai rien à faire du bon goût et des bonnes manières. Pourquoi nous laisser gouverner par des bouffons crétins fiefés? C'est de ne pas gueuler qu'on crève. On n'a qu'une vie et elle est brève. À cette pensée, mes yeux se mouillent. Faudrait plus qu'on nous casse les couilles.
Et un petit texte qui s'appelle « Tout change sauf... » Eh oui, tout bouge, tout change, plus rien n'est comme avant. Ah bah c'est le progrès, tu vas me dire. Le progrès ? Est-ce que c'est un progrès de ne plus avoir de pépins dans les pastèques ? Est-ce un progrès de faire pousser les tomates hors terre ? Moi, quand je les goûte, ces tomates, j'en suis pas persuadé. Elles ont plus le goût de flotte que d'autre chose. Tu te souviens du goût d'une bonne, d'une vraie tomate qui a mis des mois à pousser dans cette bonne vieille terre, qui a mûri au soleil ? Cette odeur quand le soir on allait faire la récolte,
Ça sentait la tomate à des mètres. Mais bon, hein, on va pas jouer les passéistes, les c'était mieux avant. N'empêche que, au niveau de la tomate... Ah, mais il n'y a pas qu'au niveau de la tomate que ça change. On achète sa viande au supermarché en barquette plastique, les vaches deviennent folles, les poulets nous refilent la grippe aviaire, les tuyauteries la légionellose, le lait est à demi écrémé, voire pasteurisé. On paye avec la carte bleue, mais on ne peut plus garer sa bagnole sans glisser la pièce au parc-mètre. Il n'y a plus de poinçonneurs dans le métro, mais presque 3 millions de chômeurs. Les flics ne font plus la circulation au carrefour, mais ils sont partout à te demander tes papiers et à te faire les poches pour voir ce que tu y caches. Et enfin, si t'as les cheveux un peu longs, un peu courts, ou que ton bronzage ne provient pas de manière visible de la dernière station de ski à la mode... Ah oui, parce que dans ce dernier cas, si en plus tu portes un costard de chez Kenzo, ils te laissent passer sans problème, les flics, hein. Ah oui. Le contrat de travail à durée indéterminée qui était la règle devient une rareté qui vaudra bientôt plus cher qu'une pièce de collection. Avant, on épluchait les légumes pour la soupe du lendemain ou on tricotait en se racontant des histoires à la veillée. Et maintenant, on bouffe des surgelés en regardant la télé. Tout change, je vous dis. Tout change. Tiens, les chats. Hein ? Les chats. Quand j'étais môme, les chats, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait. Enfin, si, à la campagne, à cause des souris. Chez Irma, ma grand-mère, il y en avait plein de chats. Mais on ne leur donnait pas à manger, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, on leur mettait juste une assiette de lait. Ils étaient à demi sauvages. Maintenant, si tu vis à la campagne et que ton chat a le malheur de sortir à la période de la chasse, il y a de grandes chances pour qu'il se prenne un coup de fusil. Ah, il faut bien que les chasseurs tirent sur quelque chose, hein, vu que le gibier à poil a quasiment disparu avec la myxomatose, et que celui à plumes ne peut plus se nourrir car les insecticides l'ont privé de nourriture. Alors le chasseur, lui, il va t'expliquer que ton chat est un dangereux prédateur qui lui retire le gibier de la bouche du fusil. Ouais. Mais en ville, peu de gens avaient des chats avant. Enfin, sauf des fois, les vieux. Ouais, et puis ils les nourrissaient avec des restes. Parfois du moule, dimanche... Aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses au supermarché, il est bien rare que celui ou celle qui te suit ou qui te précède n'ait pas un aliment pour chat ou chien dans son caddie. Le rayon nourriture de nos petites bêtes contient presque autant de variétés de pâtés en boîte que celui qui t'est consacré. Et en ville, les chats ne sortent plus. Ils sont devenus des animaux d'appartement. Qu'il faut équiper de griffoirs, de bacs d'aisance, de jouets, de colliers anti-puces, de vitamines diverses et variées. Et ce qui nous attend, enfin, je veux dire ce qui attend nos chats, est bien pire encore. Figure-toi qu'au Japon, les requins viennent de mettre sur le marché des faux ongles en plastique colorés pour chat. Ah ouais, comme ça, ton chat ne peut plus te destroyer ton canapé Louis XV. Et puis, c'est tellement plus mignon, un chat avec des ongles assortis à la couleur de ta robe ou de ta moquette. Ah, on trouve, figurez-vous, ces faux ongles en quatre tailles et en plusieurs couleurs. Violet, rose, bleu, rouge, sans compter une version transparente. Ces ongles de substitution ont une durée de vie de 4 à 6 semaines et le coffret complet, qui comprend 40 fausses griffes et la glu, coûte 3600 yens, c'est-à-dire un petit peu moins de 30 euros. Ce qui fait... Étant donné qu'un chat, normalement constitué à 5 griffes par patte, qu'en achetant ton coffret, voilà, ton chat, il est paré pour, au bas mot, 2 ou 3 mois. À condition, bien sûr, que tu arrives à lui poser les faux ongles à ton chat. Ah oui, parce que ça ne doit pas être facile, hein. Ah, quand tu sais le bordel que c'est de lui faire avaler une malheureuse pilule à ton chat, t'imagines un peu lui coller 20 griffes. Mais peut-être que le mode d'emploi te dit comment faire pour faire tenir la bestiole tranquille pendant que tu vas lui coller les trucs en question et comment tu dois désinfecter les belles griffures qui vont décorer tes bras après. Ah, il n'y a pas à dire. Ah, tout change. Il y a un truc qui ne change pas. C'est le look des hommes politiques. Ah, ils sont étonnants, ces gens-là, les hommes politiques. Depuis que je suis né, moi, je les vois fringuer toujours de la même façon, à croire qu'il y a un uniforme lié à leur fonction, un peu comme ton boucher ou le contrôleur de la SNCF ou le flic du coin, quoi. Encore que de temps en temps, hein, on les remet à la mode, les contrôleurs de la SNCF et les flics. L'homme politique, lui, eh ben, il bouge pas. Costard, 3 pièces, chemise, cravate. Tout juste s'ils osent une chemise rose ou un col mao de temps à autre pour les plus farfelus. Oh, il y a bien eu une tentative dans les années 70, mais ça n'a pas duré. Mais attention, ils sont près du peuple qu'ils te disent. Hein ? Ils sont là pour te représenter, ils sont comme toi. La preuve, hein ? Alors que toi, les lecteurs, tu te balades en t-shirt et en jean, chemise, col ouvert. Eux, bah, ils sont toujours engossés dans leur costard. La même tenue que les banquiers, que le baron Cellière. Oh, mais ça doit être un hasard.
Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant d'élan moral, ils ont de pages à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupant 2 ou 3 tronçons, ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Quand ils ont lu Tintin Brévet, quand ils ont écrit 4 vers, on les consacre reporters dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont plus assez d'idées, on les met aux chiens écrasés. Quand il n'y en a plus, ils sont mutés, on les met au rang des critiques. As-tu vu mon papier tout frais? C'est presque du papier monnaie. Est-ce que tu connais Bossuet? Tout à fait moi, la légende. C'est pas du moussi, du brutal. Et puis ça fera original. T'avais mal à mon piédestal. Quand on monte, lui, il faut descendre. Pour les comprendre, il faut les voir le moins souvent, mais certains soirs, surtout quand ils jouent les plus soirs, aux soirées des grandes premières. Le bras pendant les plus bons coups, le programme sur les genoux, il feignent de comprendre tout, mais s'ennuient comme au cimetière. Et leur critique terminée, il faut les voir se corriger, mais en toute objectivité, comme s'ils avaient payé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une à la deux, mais deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout, on ne sait rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais, que moins c'est faux, le plus c'est vrai, que plus c'est gros, plus c'est épais, que moins c'est blanc, le plus c'est
sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions. Sachez que vous faites exception et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès. Quand je deviendrai journaliste.
Et maintenant, un texte dont le titre est 1,416 miles seconde. Alors, ce texte m'a été inspiré il y a quelques années par le championnat du monde de tricot. Je ne savais même pas que ça existait. Mais figurez-vous que c'est la vérité vraie. Il existe un championnat de mailles de tricot. Et j'ai donc écrit ce petit texte. Et les noms qui sont cités dans ce texte sont les noms du championnat du monde de tricot de l'année à laquelle j'ai écrit ce texte. Voilà. Je vais donc avoir le plaisir aujourd'hui de vous faire partager la rencontre de notre envoyé spécial avec la championne mondiale d'une discipline séculaire longtemps sous-estimée en tant que sport. Il était en effet temps que cette discipline soit reconnue au plus haut niveau. La pétanque n'a-t-elle pas ses champions du monde, individuels ou par équipe, de tir, de consommation de pastis et j'en passe? Or, qu'est-ce que la pétanque? Un passe-temps d'après-sieste pour retraités normaux ou avant l'heure qui, en quelques décennies, s'est métamorphosé en sport universellement reconnu avec ses champions, ses sponsors, ses circuits qualificatifs, ses fabricants de matériel spécialisé, ses supporters, ses buvettes et le soutien intéressé de Pernod Ricard. Certes, la pétanque a ses championnes, mais il faut bien le reconnaître, les femmes sont très minoritaires dans ce sport, presque exclusivement masculin. Ainsi que dans certains autres, tels que l'haltérophilie, la chasse à la bécasse et le 421 bistrot, il faut bien le reconnaître. Or, pendant que ces pionniers de ce qui allait devenir un sport mondial lançaient leurs boules pour occuper leurs loisirs, que faisaient leurs femmes lorsqu'elles ne les faisaient pas reluire, les boules, je veux dire. En ces temps de pionniers, la femme, c'est bien connu, avait un esprit pratique et utilitaire. Je vous rappelle que nous nous situons alors avant l'apparition du MLF qui bouleversa quelque peu les données. Pour occuper les loisirs, ces dames tricotaient, joignant ainsi l'utile et l'agréable. L'utile étant le résultat de cette agitation digitale, à savoir des pulls, des chaussettes et autres cache-nez, l'agréable étant les potins, plus ou moins calomnieux, qui se comportaient à cette occasion. Car tout comme la pétanque, le tricot se pratique en groupe, plus ou moins important, quoique on n'a jamais vu d'équipe de tricot, enfin à ma connaissance. Sauf bien sûr quand quelques tricoteuses d'une même famille travaillent à un projet commun style couvre-lit en patchwork, ça va de soi. Quoi qu'il en soit, il n'est que justice que cette discipline typiquement féminine et en voie de disparition ait à son tour droit à la reconnaissance par la création d'un championnat du monde. Pourquoi, me direz-vous, créer un championnat du monde de tricot au moment même où cette activité est en perte de vitesse, au moins dans nos pays dits civilisés? Je vous répondrai qu'il y a bien un championnat de tir à l'arc, alors que ça fait un bout de temps qu'on ne sert plus de cette arme, que ce soit pour la chasse ou même pour la guerre. Hein? Alors, je vous le dis tout de suite, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, vous n'êtes pas prêt de voir cette épreuve retransmise en direct ou en Eurovision à la télévision. En effet, cette épreuve, si elle est brève, puisqu'elle se déroule sur 3 minutes, est relativement peu spectaculaire. Imaginez une salle de gymnase. Une centaine de chaises sont placées en carré en son centre. Quelques panneaux publicitaires disséminés çà et là, peu nombreux,
Les aiguilles qui piquent, quelques marques de laine, un fabricant de tisane, une grande marque de thé, une revue destinée aux managères de plus de 50 ans. Enfin, rien à voir avec ce qu'on peut observer sur un stade de foot pour une finale mondiale. Pour l'instant, nous attendons les concurrentes qui sont en train de s'échauffer dans les vestiaires. La plupart sont arrivées depuis quelques heures. Un massage des mains, des doigts et plus particulièrement de l'index servant à lever la maille. Le droit ou le gauche, hein, selon que la concurrente est droitière ou gauchère. Cette séance de massage est la plupart du temps suivie d'un échauffement d'une pelote de 50 grammes. Échauffement au cours de laquelle seront choisies soigneusement les aiguilles devant servir à la compétition et définir les derniers détails tactiques. La grande majorité des concurrentes a en effet un tableau de marche très précis. Certaines préfèrent commencer lentement, puis accélèrent le rythme au fil de l'épreuve. D'autres, au contraire, choisissent la régularité. Certaines préfèrent calquer leur performance sur celle de leurs adversaires, prêtes à répondre au moindre démarrage, sûres de que leur dextérité au moment du sprint, par exemple. Mais les voici qui rentrent. Leur tenue collante, pour ne pas entraver le geste, porte les marques de leurs sponsors respectifs. Elles prennent le temps de se caler en position sur leur chaise, jambes croisées, serrées ou écartées. Certaines Attendez, je vois pas très bien. Voilà, les concurrentes sont maintenant sous les ordres du starter. Les aiguilles dans les mains gauches, elles se préparent à saisir la pelote de laine qui leur est attribuée au signal de départ. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Là-bas, sur la gauche, une concurrente allemande rate complètement son départ. Sa pelote roule jusqu'au milieu de la salle. Pauvre, oh, elle se traîne à quatre pattes pour la ramasser. Ah, elle s'affole et elle relâche la pelote. Elle ne pourra pas rattraper son retard. Elle rejoint sa chaise en courant et courageusement se lance à la poursuite des autres concurrentes qui ont maintenant de nombreux points d'avance. Le déroulement de l'épreuve est assez difficile à suivre là, depuis les gradins, même avec une bonne paire de jumelles. Toutefois, il me semble évident que la détentrice du record du monde, Wendy Wumby, est en difficulté. Elle semble beaucoup moins facile qu'à son habitude. Nerveuse, elle surveille l'avancée de ses principales adversaires d'un air inquiet. Là, sur ma gauche, emportée par son élan, une concurrente tire trop vite sur son aiguille et elle démaille. Ah là 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 là, c'est terrible pour elle. C'est fini, elle s'écroule en larmes. La plus impressionnante à cette mi-épreuve est Olga Podeskrikevaya. Elle ne quitte pas un seul instant son ouvrage des yeux. Son rythme d'une belle régularité devrait la mener dans la zone du record mondial. Sur ma droite, une Française abandonne, victime d'une crampe. A-t-elle participé à trop de compétitions cette année ? Parce qu'en effet, le bruit court que le calendrier est trop étoffé et que l'état physique des compétitrices s'en ressent. Enfin, à moins que ce ne soit la faute d'un entraînement trop intensif ou de toute autre chose qui ne me vient pas à l'esprit. Ah, comme dans tous les autres sports, les rumeurs de dopage circulent dans les coulisses, mais aucune preuve n'existe à ce jour. Tous les contrôles effectués à ce jour se sont révélés négatifs en produits dopants. Enfin, autre que la théine, cette substance étant autorisée dans cette discipline. Les concurrentes britanniques, en effet, menaçaient de boycotter l'épreuve si le 5 o'clock était remis en cause. Nous voici maintenant dans les derniers instants de cette compétition. Comme je vous l'ai dit, il est très difficile d'où je me trouve de vous faire un point très précis de la situation. Rien à voir avec un Grand Prix de Formule 1 hein, où on peut prévoir sans se tromper la victoire d'un Schumacher. Rien à voir non plus avec un match de foot où il suffit de savoir combien de buts ont été marqués pour savoir qui est le vainqueur. Il va falloir attendre le décompte fait par les juges. Toutefois, je peux vous dire qu'une fois de plus, la victoire reviendra sans doute à une Britannique, si j'en crois l'état de fraîcheur des concurrentes de la perfide Albion. L'arbitre siffle la fin de l'épreuve, les juges ramassent les tricots. Dans quelques minutes, les résultats s'afficheront et nous connaîtrons le nom de la nouvelle championne du monde. Hein, il semble bien que Wendy Bourbly ne pourra pas garder son titre. En ce moment même, elle discute avec son entraîneur et je peux vous dire que l'humeur dans ce coin ne semble pas au beau fixe, non. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'elle se passera des services de son entraîneur à l'avenir. Olga Podeskaya semble confiante, elle, et elle attend calmement les résultats, le regard toujours aussi bovin. Dans le camp français, c'est la désolation. Victime de pas de chance, nos représentantes n'ont manifestement aucune chance de figurer dans le haut du classement. La championne de France, ayant pris le départ de l'épreuve avec un sparadrap sur la troisième phalange de l'index droit, nous n'avions d'ailleurs aucune illusion à nous faire et nous ne nous en faisions pas d'ailleurs. Ah, si ma maman avait participé, ça je dis pas, mais bon. Ah, mais voici que les juges-arbitres s'avancent et ils baragouinent des choses dans le micro. Ah ben c'est en anglais, j'ai du mal à comprendre là. Je lis le panneau lumineux. La troisième est l'ex-championne du monde, Wendy Mobley, avec 207 mailles. Eh oui, je vous avais bien dit que Wendy n'était pas au mieux de sa forme, et ce résultat le confirme. Deuxième avec 214 mailles, Olga Podeskaya, qui, malgré son nom à consonance slave, est aussi londonienne que la Queen elle-même. Et enfin, première, une autre britannique, Hazel Tindall, qui l'emporte en établissant un nouveau record du monde avec le total de 255 mailles en 3 minutes. La suprématie britannique est écrasante. Le « God save the Queen » retentit et je file à l'anglaise jusque dans les vestiaires pour y attendre la nouvelle championne du monde afin de lui poser quelques questions. Alors là, on passe une pub. Écoutez Radio Larzac. Mais non, ah, je plaisante, mais je la fais moi-même, la pub. Écoutez Radio Larzac, les enfants. C'est la radio la plus intéressante de tout le coin. Bon, et me voici donc en compagnie de la nouvelle championne et recordman du... recordwoman du monde. Hazel. Can I pose to you some questions? Là, vous remarquerez au passage que je fais des efforts pour m'adresser à la championne dans sa langue maternelle. Elle ne me répond pas, j'ose donc une deuxième question. Is your tailor rich? Là, Hazel a l'air rien désorienté par cette question. Can you declare quelque chose? Et là, il me répond, « Ah, you are French !»« Oui, comment le savez-vous ?»« What accent ?» Je dis, « Ouais. Eh bien, pour tout dire, je n'arrive pas à croire que j'ai gagné ce championnat. La concurrence très rude était. Oui, pratiquez-vous ce sport depuis longtemps ?»« Au bas tricoter est une tradition dans la mienne famille. J'ai commencé à 4 ans d'âge. » Je suis maintenant 52 ans vieille. Oui, et comment vous entraînez-vous? Je rappelle à nos auditeurs que le tricot est encore un sport amateur. Je m'entraîne tous les jours pendant 8 heures. J'occupe un poste administratif dans l'enseignement, ce qui m'a facilite grandement les choses. Oui, et pouvez-vous nous dire comment se déroule l'année d'une championne de tricot? C'est bien simple. Je m'entraîne toute l'année. En été, je tricote les gilets et autres pulls légers pour l'automne.
Et en automne, les châles et gros pulls pour l'hiver, et en hiver, ceux de printemps. Et au printemps, autrefois, je tricotais des maillots de bain pour l'été. Et hélas, cette mode a disparu. Aussi me suis-je rabattu sur la layette qui peut, elle, servir n'importe quand.
Et que faites-vous quand vous ne tricotez pas?
Oh, je suis de très mauvaise humeur. Alors, comme vous dites, vous autres Français, la moutarde me monte au nez, il n'y a que maille qui maille.
Alors là, j'ai pas très bien compris pourquoi elle riait. Je l'ai donc laissé à sa joie et je vous engage à vous entraîner sérieux si, comme moi, vous désirez que la France atteigne le plus haut niveau dans cette discipline qui nous échappe encore. Il ne fait pas de doute qu'avec le nombre de moutons et de fonctionnaires dont la France peut s'enorgueillir, nous ne devrions avoir aucun mal à occuper la première place.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
Un texte dont le titre est Le rêve de sa vie. Il est seul, seul en tête dans une étape du Tour de France. Il se sent bien, ses jambes tournent comme des bielles bien réglées, tout en souplesse, avec une belle régularité. Il se retourne, rien à l'horizon. Ça fait une dizaine de kilomètres qu'il s'est échappé. Un beau démarrage en force, juste après une attaque avortée, juste dans les règles de l'art, quoi. Il a pris 10 mètres, puis 20, et puis le trou s'est creusé régulièrement. Ça montait ferme à ce moment-là. Et la grimpette, lui, c'est son truc. Maintenant, là, il est dans la descente. Après, il y aura quelques kilomètres de plat, et puis la côte qui mène à l'arrivée. Pas très longue, la côte, mais qui grimpe sec. S'il ne se fait pas reprendre avant, il est presque sûr de pouvoir franchir la ligne en tête. Le bonheur. En attendant, il n'y a qu'une seule chose à faire.
Foncez, foncez et encore foncez. Oh là, oh là là, oh là, il a bien failli se planter. Putain de gravillon. Ah, oh, la roue arrière a chassé. Mais il a pu rattraper à temps. Ah, oh, mais il s'est fait une belle frayeur. Relancez, putain, faut relancer. Allez, mec, debout sur les pédales, il appuie comme un sourd pour reprendre le rythme. Il doit bien le frôler le 90 dans ses descentes. Il ne s'agit pas de faire une erreur à cette vitesse. Oh merde, une épingle. Roue libre, coup de frein. Ah, ça passe. Il se remet en danseuse. Ah, dur, il aurait dû changer de braquet. Oh, quel con. Ah, c'est pas le moment. Allez, fonce, bonhomme. Depuis qu'il tente, qu'il rêve de gagner une étape dans le tour. Putain, c'est pas le moment de flancher. Déjà, quand il a débuté, il en rêvait. Il se souvient, il avait 14 ans, il était en cadet, et il a gagné la course de côte du premier Paninlope. Premier, il n'en revenait pas. Et quand il a franchi la ligne d'arrivée, il a bien cru que son cœur allait exploser. Il avait les jambes qui tremblaient. Il avait du mal à marcher quand il a mis pied à terre. Ah, oh, mais quelle joie. Allez, encore deux lacets, et c'est le plat. C'est là que tout va se jouer. Voilà, ça y est. Profitez de l'élan pour enrouler le grand braquet le plus longtemps possible. Pas de vent. Une chance. Parce que tout seul, comme ça, s'il avait le vent le contraire, bah, il ferait pas long feu. Hein. Il appuie à fond, le coccyx sur le bec de sel. Pas très élégant comme position, mais il en a rien à faire. Il met le nez dans le guidon, le regard posé juste quelques mètres devant sa roue avant. Pas de risque, hein. C'est tout droit. Il est à fond, mal aux cuisses, mal aux mollets. La sueur coule sur son front et puis le long de son nez en amasse un ruisseau. Il se retourne un bref instant, le temps de juger de son avance sur ses poursuivants. Ah, il débouche tout juste sur la ligne droite. Il doit avoir deux bonnes minutes d'avance, pourvu que ça suffise. Il emmène le grand développement à grands coups de pédale hargneux. De plus en plus mal aux jambes, oh, pourvu qu'il n'ait pas de crampes. Une fois ça lui arrivé, ça, oh, il s'en rappelle encore. Il s'était échappé comme aujourd'hui. Il était resté en équipe libre pendant que les autres le dépassaient à toute allure. Oh, il en avait pleuré de douleur et de rage. Et tout en roulant le plus vite qu'il peut, il fouille dans la poche derrière de son maillot pour en extraire une petite fleur. Dopage ? Enfin non, non. Enfin si on veut, mais dopage à l'ancienne. Un mélange de Porto et de jaune d'œuf. Antonin Magne faisait déjà ça à sa grande époque. Ça te donne un coup de fouet pas possible. Il en a bien besoin d'un coup de fouet. À la dernière côte. Encore quelques minutes à souffrir et... Il se retourne encore une fois. Oh, ils se sont drôlement rapprochés. Il hésite un moment avant de choisir un développement approprié au profil de la route. Les spectateurs ne lui laissent qu'un étroit passage. Ils hurlent des encouragements, mais il les entend à peine. Les battements de son cœur résonnent jusque dans sa tête. Il faut tenir. Tenir. Il est en eau, trempé de la tête aux pieds par sa propre sueur. C'est tout juste s'il sentra encore ses jambes. Chaque coup de lui pédale lui arrache une grimace de douleur. Il tire sur le guidon de toute la force de ses bras. Ça vaut bien la musculation, le vélo. Debout sur les pédales, il se déhanche telle une danseuse des Folies Bergères. Mais en moins érotique. Cette pensée le fait sourire. Coup d'œil en arrière. Les autres ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres. L'arrivée aussi. Il donne tout ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il lui reste de force. Il va gagner. Il veut gagner. Il faut qu'il gagne, quitte à en crever. Ses tempes battent l'air. L'air siffle dans ses poumons brûlants. Il est à deux doigts de l'étouffement. Ils sont sur ses talons. Il le sent. Il le sait. Un écart pour éviter un spectateur qui reste bêtement sur sa trajectoire. Mais connard, va ! Mais aucun sang ne sort de sa bouche. Séché par sa respiration haletante. Chacun ponctue un coup de pédale, dents serrées à s'en éclater la mâchoire. Son regard se brouille. La ligne, elle est là, la ligne. Un dernier coup de rein. Il l'a franchi quelques instants avant les autres. Un sourire éclaire sa face. Dans quelques instants, il répondra aux questions des journalistes. Ouais, ouais, ça a toujours été mon rêve. Quand on a réalisé son rêve, on peut mourir tranquille. Une grande douleur dans la poitrine, un voile noir devant les yeux. puis plus rien. Papa. Papa.
Mais n'insiste pas. Tu vois bien qu'il est mort. Une belle mort, d'ailleurs. Une mort dans son sommeil. À 83 ans, après une vie tranquille, une vie de comptable, on ne pouvait pas souhaiter mieux. Et c'est ce qu'il voulait, d'ailleurs. Il a réalisé son rêve.
Eh bien voilà, ça c'était un texte que j'ai écrit en hommage à mon papa qui était comptable et qui est mort à 83 ans et qui avait rêvé toute sa jeunesse de devenir coureur cycliste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Théo qui toutouille les boutons derrière la vitre et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.